sont les autographes.
Alors, la question ce soir de Kevin. Pourquoi se casser la tête à étudier la Guémara, surtout lorsqu'elle traite des sujets qui ne nous concernent plus? Pourquoi la Torah a-t-elle des questions si abstraites? C'est une question basique auquel il est nécessaire de comprendre la réponse, parce que sinon les gens viennent ici à la Guémara et ne comprennent pas. Quelqu'un vient ici à la Yeshiva, il ne sait pas c'est quoi la Guémara, il a vu des cours sur Internet, il se pose des questions existentielles sur le pourquoi de la vie. Alors je m'attends, je viens apprendre. La Torah de Dieu, tu vas m'expliquer quoi? Pourquoi j'existe? Comment me réaliser? Comment être en harmonie avec moi-même? Comment gérer un couple et réussir? Éducation des enfants? On m'assied, on me dit tiens, prends. Et on apprend, voilà. Eved Knaani, un esclave cananéen. C'est une voie qui était pratiquée il y a 3000 ans, absolument plus aujourd'hui. Quelles sont les voies d'acquisition? Comment il s'acquiert? Comment il se rachète à lui-même? Et tu as 10 pages comme ça. Tu as sur une servante, tu as sur un esclave. Écoutez, d'abord, je ne comprends pas pourquoi un esclave qui est encore des esclaves aujourd'hui. Peut-être pas pour qu'on est contre l'esclavage. Bien sûr qu'on est contre. À toi, pourquoi elle parle des esclaves? Parce qu'elle parle de la situation à l'époque. À l'époque, c'était une donnée. Il fallait aussi gérer ça. Entre parenthèses, la Torah dit là-bas, c'est dans Kiddushin, elle dit que celui qui a acheté un esclave, il s'est acheté un patron. Parce que si toi tu dors sur un oreiller, il faut un oreiller. Si tu dors sur un matelas, il faut un matelas. Tu ne peux pas toi dormir sur un matelas et lui sur de la paille. Tu bois, tu ne peux pas lui donner boire un bon vin, toi, à 100 euros la bouteille, donner lui une bouteille de vin à 5 euros. Tu bois la même bouteille que tu bois toi, il boit lui. Donc c'est un patron, c'est à égalité, c'est un concurrent dans la maison. Donc ça c'est au niveau de l'esclavage. Mais le type il dit, alors pendant 2 mois, on lui fait tout des tas de pilpoulim, comme on traduit ça en français, des objections, réponses et raisonnements extrêmement aigus sur une chose qui n'a absolument aucun incident sur sa vie. Il dit, excusez-moi, j'ai fait 2 mois, alors il revient après chez lui, alors qu'est-ce que t'as pris la Gemara, dis-moi, qu'est-ce que t'as pris la Yeshiva? Ben voilà, il y a une question, un esclave, d'où est-ce qu'on apprend exactement, qui s'apprend avec de l'argent, est-ce qu'on apprend les cas d'acquisition comme d'un champ, ou bien non, c'est comme des métaltélines, des choses qui sont des choses immobilières ou mobilières. Et après ça, qu'est-ce que t'as encore appris? Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme sujet? Le Kohen Gadol, au temple, quand il enfonçait la main pour prendre la pâte pour un sacrifice, est-ce qu'il faisait comme ça avec le doigt ou comme ça avec le doigt? Et quand encore, qu'est-ce que tu as appris? Ben, le cas d'une vache qui a encorné un bœuf, et ça fait la troisième fois, et... Ouais, c'est vrai, un bœuf qui a encorné une vache, d'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on fait et le bœuf s'est enfui avant qu'on l'a jugé, et alors, il a encore encorné une quatrième vache, qu'est-ce qu'on fait? Le type, il dit, vous êtes une bande de tarés. Et moi, je dis, si vous voulez une preuve comme quoi c'est la Torah de Dieu, c'est venez et regardez les gens pendant des mois s'assied, étudie ça. Il faut le faire, hein. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est la Torah de Dieu. C'est impossible. Parce qu'un type, pendant une heure, il dit, écoute, je crois qu'il était censé, mais excuse-moi. Et c'est trop simple de dire qu'on lui fait un lavage de cerveau, vas-y, comme ça tu... Il tiendrait pas. Alors au bout d'un moment, ça... Des épines dans le postérieur. Insupportable. Alors, quelle est la raison profonde? D'abord, on voit que ça marche. On voit que ça sanctifie. On voit que les gens, ils changent de tête. Prends quelqu'un qui a... Pas acheté à la Shiva maintenant, il a une tête d'où il vient, d'accord? Et prends-le 6 mois après, il a changé de tête. C'est pas parce qu'il mange cachère, c'est pas parce qu'il n'y a plus de fils à la Yeshiva, c'est pas parce qu'il a arrêté avec les pétards. Ça, il aurait à peu près la même tête. C'est parce que il se sent, tu vois de la Kdoucha, de la sainteté, et tu vois qu'il a un amour de ça. Au bout d'un moment, quand on sanctifie, ça ouvre la Torah est comparée à l'eau. Pourquoi? Ben, quand va dans le désert quand tu es assoiffé à 40 à l'ombre et commence à boire de l'eau fraîche, comment ça te fait? C'est ça la Torah. Ils sont qui désaltèrent sa neshama. Et les gens vivent cela, donc c'est pas de la blague. Maintenant, ça c'est la réalité maintenant. Pourquoi c'est comme ça? Alors je me demande ici qu'on m'amène Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, c'est l'âme de la vie. D'accord? C'est un livre qui a été écrit il y a 300 ans environ, par 250 ans, par Rabbi Haim de Volozhin, par excellence, élève du Gaon de Vilna, qui a, lui, a ouvert le principe des yeshivot européennes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, le système des yeshivot. Donc, la grande yeshivot, c'est les yeshivot de Vologine. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'âme de la vie », Nefesh HaChaim. C'est quatre portails. Il parle de notions basiques, mais très profondes, du judaïsme. Et le portail 4 parle uniquement de l'étude de la Torah, la valeur de l'étude de la Torah. Je vous conseille de lire ça parce que, voilà, c'est édité rien que le portail 4. Ici, tu as l'édition complète, d'accord. Mais beaucoup de gens n'éditent que le portail 4, parce que quand tu lis ça, tu ne veux pas perdre une seconde de ton temps. C'est terminé, tu plonges dans la Torah jour et nuit, parce que ça te booste. Alors, qu'est-ce qui est dit ici au chapitre 11? Car la Torah, la Sainte Torah, « Dibouro Yidbarach », elle est la parole de Dieu, béni soit-il. C'est quoi une parole? Dieu a une bouche, Dieu en entend. Parole égale expression. Quelqu'un, quand il parle, pourquoi il parle? On ne parle que pour dire ce qu'on pense ou ce qu'on veut. Ou ce qu'on veut pas. Mais quand on veut pas, on veut pas ça. D'accord? Mais on veut pas ça. Tu parles jamais pour autre chose. Et qui es-tu? Tu es ta volonté et ta pensée, c'est ça toi. L'expression de toi-même, j'ai raconté souvent cela. Rabbi Yehuda Hassid, il écrit, il dit, tu veux honorer quelqu'un. Tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent. Tu peux l'honorer parce qu'il est beau. Tu peux l'honorer parce qu'il est riche. Tu peux l'honorer parce qu'il est sympathique. Tu peux l'honorer parce qu'il a sens de l'humour, tu peux l'honorer parce que, qu'est-ce que j'en sais moi, d'accord? Ce que tu veux. Tu ne l'honores pas. Ce n'est pas lui que tu honores. Ce n'est pas honorer, respecter lui. Tu le respectes pour son argent, ce n'est pas lui. Lui, c'est son argent. Lui, ce n'est pas son argent. L'argent disparaît, lui, il reste. Il n'y aura plus d'honneur, il n'y a plus d'argent. Mais pourtant, lui existe. Tu l'honores parce qu'il est intelligent. L'intelligence part, il devient sénile. Lui n'existe pas. Il est là. L'intelligence, c'est une chose qu'il a, mais ce n'est pas lui. Tu l'honores parce qu'il est beau. Le pauvre, il a été défiguré. Il n'existe pas. Il y a lui. Ce n'est pas sa beauté. Sans de l'humour. Il est en deuil maintenant. Il n'y a plus aucune blague. Tu ne vas pas l'honorer. Ce n'est pas lui. Il existe. Etc.
Tu peux l'honorer pour ce qu'il a fait.
Tu peux l'honorer pour ce qu'il a fait. Oui, mais t'honores maintenant. Donne-moi un exemple. Il a, je ne sais pas moi, il a...
Il a oublié d'une association qui peut encore...
Il t'a sauvé la vie, il a fait des actes. Alors, maintenant, tu veux l'honorer parce que tu es reconnaissant de ce qu'il a fait. Tu apprécies ce qu'il a fait. Alors, comment tu fais pour l'honorer, lui? C'est qui a fait ça? Son intelligence? Son sens de l'humour? Son argent? Non. Lui. Lui. C'est quoi, lui? Alors, Rabbi Dachassid dit, honorer quelqu'un, c'est honorer sa volonté. Respecter sa volonté. Pourquoi la volonté? Parce qu'il n'y a pas de chose plus intime à nous. Nous, ce que c'est, nous vraiment, on ne sait pas. Personne ne sait ce qu'il est. Un bidule machin, on ne sait pas ce que c'est. Alors, comment on sait plus ou moins qui on est, comment on arrive à saisir? Parce que ce bidule machin, nous, il s'exprime par une volonté. La volonté, c'est la chose la plus intime qu'il y a à toi. Par sa volonté, il a fait cet acte de bravoure. Par sa volonté, il t'a sauvé. Par sa volonté, il a créé une association qu'il a fait, etc. C'est la volonté qui était derrière. Tu honores sa volonté. Là, c'est lui. La volonté, elle se transforme en pensée. Et la pensée, elle va s'exprimer par la parole. La parole égale expression de ma volonté, expression de ma pensée. La Torah, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'expression la plus intime, la plus proche, la plus vraie, l'expression avec le grand E et le L apostrophe majuscule de Dieu. C'est lui en quelque sorte. Comme tu ne sais pas qui je suis, comme je dis c'est un bidule machin que personne ne connaît ce que je suis, mais comment tu me connais? Parce que je m'exprime. Tu vas te marier. Tu aimes ta femme. Mais qui est-elle? On laisse tomber, il y a le corps. Ok, mais à part le corps, c'est pas, il n'y a pas que ça. Il y a elle, bien sûr il y a elle. Je l'aime, elle, c'est quoi? Alors, elle est sympa, elle a un bon caractère, ok, enlève tout ça, à part ça. C'est quoi elle? Elle, c'est sa volonté. Comment tu sais qui elle est? Comment tu t'exprimes? Comment tu communiques avec elle? Comment tu peux la toucher? Elle, c'est sa volonté. C'est ce que tu connais d'elle. Nous, on veut toucher Dieu. Et Dieu veut qu'on soit en communication amoureuse avec lui. En contact. Alors comment? Dieu, il est ineffable, infini, un feu dévorant, dit la Torah. Je peux me brancher avec lui? Oui. Il s'exprime, Torah. La Torah est la parole de Dieu. Maintenant, Dieu, comment il a créé le monde? Par la parole. Le monde, c'est l'expression de la volonté de Dieu. C'est vrai qu'en hébreu, le mot « chose » se dit « davar » et le mot « parole » se dit « davar ». Pourquoi? Parce qu'une chose, c'est une expression de la volonté de Dieu. C'est quoi une chose? Une chose créée. Avant que Dieu ait créé la chose, c'est marqué dans le mot « bereshit », avant que Dieu ait créé la chose, il y a eu deux choses. Bet, reshit. Deux, reshit. Deux choses premières. Reshit signifie primordial. Donc, comme explique Rashi sur place, B, reshit pour reshit. Et B, par reshit. B signifie pour ou par. Pour une chose première et par une chose première, Bara Elohim, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais avant qu'il y ait la création proprement dite du ciel et la terre, il y a eu un pour et un par. Un pour, c'est une volonté, j'ai un but. Pour ça, je fais. Ma motivation. Pourquoi le monde est créé? Il y a un pourquoi. Le monde n'est pas comme ça. Dieu, avant qu'il y ait le monde, a eu un but. Après, il y a eu un par, une pensée. Il faut le plan. L'expression du pour et du par égale création. Quand Dieu crée le monde, il réalise ce qu'il a voulu et ce qu'il a pensé. Vous me suivez? Ça vole pas trop? Moi, quand je fais un acte, voilà, je bouge le livre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu le bouger. Après, j'ai pensé le bouger. Et pour finir, quand j'ai réalisé ma volonté et ma pensée, ça s'est réalisé. Donc, cet acte-là égale la réalisation de ma pensée, d'abord ma volonté, et ensuite de ma pensée. Maintenant, ce monde-ci, c'est une réalisation de quoi? De la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, qu'on appelle parole. La parole égale réalisation, l'expression, la réalisation de ce que Dieu avait voulu et pensé. C'est-à-dire que nous dirons aussi un objet en hébreu, comme le deuxième mot pour dire objet en hébreu, chefetz. Chefetz égale aussi volonté, désir. Nous sommes entourés de paroles et de désirs. C'est ça le monde. Parole de Dieu, désir de Dieu. À la base, pour que ce monde puisse exister, continuer à exister, il faut qu'il y ait une énergie qui passe sans cesse. Cette énergie divine, c'est une parenthèse. Maïmonide, comment il prouve que Dieu existe? Très bête, il dit, regarde, le monde tourne. Le globe tourne, les électrons tournent. Tout est en mouvement. Ce mouvement est éternel. Maintenant, quand un mouvement, forcément quelque chose a provoqué ce mouvement. Maintenant, la chose qui provoque est toujours plus forte que la conséquence. N'est-ce pas? Tu peux avoir une conséquence plus grande que la force qui a provoqué. Une force provoque, forcément, elle est aussi forte que ce qu'elle a réussi à faire. Ou plus. Si tu vois que le mouvement est éternel, forcément tu as une source, une force qui est éternelle. Donc Dieu existe. Je vais faire une parenthèse. C'est-à-dire que de façon éternelle, sans cesse, tu as un flux de force, une force. La science, elle est marrante, elle dit il y a une force. Regarde, je prends un truc, ça tombe. Pourquoi? Il y a une force. Ouais, mais s'il y a une force, quelqu'un qui agit la force, il y a une force. T'as pas de force sans quelqu'un qui fasse qu'il y a une force. Il y a une force, ouais. Donc il y a... Alors, ils n'aiment pas qu'on parle de Dieu, parce qu'on imagine des têtes et des barbes et des machins. Non, ouais. Laisse tomber, c'est bien plus haut que ça. Il y a l'autre. Quand on dit Elohim, Elohim, Dieu, valeur numérique, c'est 86. Ha-teva. Ha-teva, la nature. Quand on dit le mot Elohim, il faut penser ces mots dans la tfila. Takif, puissant qui a toutes les forces et tous les pouvoirs. C'est ça, la force. L'œuvre, celui qui émet des forces. La nature. Il y a une force dans la nature, ils disent. Oui, il y a une nature qui a des forces. Voilà. Ce que nous appelons le Tout-Puissant. Celui qui est à la source de toutes les puissances, de toutes les forces. Dieu. Donc Dieu, maintenant, sans cesse, il agit. Il envoie de la force. Qui est une expression de sa volonté, expression de sa pensée. Qu'est-ce que c'est? Nous dit, c'est la Torah. La source, l'âme de la vie, le nom de ce livre-là, c'est la Torah. Vemamar piv, et par la parole de sa bouche, Idbarach, béni soit-elle, Bemaase bereshit, dans la création, Nivreu ont été créés, Haolamot Kulam, tous les mondes. Alors il explique ici comment. Par. C'est très compliqué parce qu'avant qu'il y ait. Petite parenthèse supplémentaire. Nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av. Av Rachetevot. Rachetevot, c'est l'abrévation de Elul Ba. Elul approche. Ça veut dire qu'il faut se mettre à trembler. Elul, c'est le mois d'Atshuva. Qui nous amène à Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence et Yom Kippour. Je vous en parle, ça me fait déjà des guili-guili dans la nuque. Là, il faut se préparer, c'est le jour du jugement. Comment on fait Tshuva? Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? 12 vidouim. 12 fois on fait Khatat, j'ai péché, j'ai fait ci. D'après l'alphabet, d'après l'alphabet. Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, d'après l'alphabet. Et après on fait même à l'envers. Du Taf jusqu'au Aleph. Pourquoi? Pourquoi? Où est le rapport entre ça et les péchés? La mystique juive va l'expliquer. Elle va expliquer. Lorsque tu dis ces lettres-là, tu dis les lettres en fait de l'ABC, Hacham, Bagadon, etc., tu montes au monde le plus supérieur de tous les mondes. Il y a un autre monde à nous, puis il y a des mondes au-dessus. T'as Asiya, après t'as Yetzira, Bria, Atsilou. Tu montes dans les mondes. Puis tu vas au monde le plus haut qu'il puisse y avoir. Quand tu fais des péchés, tu casses les mondes. Tu casses, c'est-à-dire tu casses toute la tuyauterie céleste qui amène du flux dans ce monde. Péché signifie que tu. Je vais vous expliquer ça souvent ici. Pécha signifie péché en hébreu. Pécha. On a interverti les lettres Shefa. Shefa, c'est un flux. C'est un flux qui vient de Dieu, qui t'amène de la vie. Quand tu fais un péché, ce flux, il te quitte, tu le tords et il part autre part. Il part ou vers le mal. Il donne la force au mal. Se lève un Bin Laden, se lève un Ahmadinejad, se lève un Arafat. Tous les ordures du monde, d'accord, un Hitler, etc. On lui donne du Shefa, on lui donne, par notre pécha, on lui donne du Shefa, de l'abondance. Le péché le plus grave est sanctionné par le karet. Les péchés les plus graves, entre autres interdiction sexuelle, etc., Shabbat, Kippour, Pessah, sont sanctionnés par le karet. Karet, c'est tu touches le niveau le plus haut qui est. Il y a 10 sphères, la plus haute s'appelle Keter. Keter, c'est la couronne. Inverser l'aide, ça fait karet. Tu inverses à ce niveau-là. Avon vient du mot Avon, c'est quoi Avon? Aivut. Avon, c'est la racine tordre. Chet signifie rater. Il y a trois mots pour des péchés. Chet, Avon, Pécha. Tout, c'est dire t'as raté la cible. Le flux n'est pas venu comme il faut. Donc tu as cassé dans les mondes supérieurs, t'as cassé, t'as détruit. C'est ça les péchés. T'as tout détruit. Donc t'as pas un flux qui. Le flux, il passe que très lentement. T'es un mort-vivant. Comment on peut réparer ça? On va monter à un niveau. Par nos prières, qui est au-dessus de tous les mondes qui peuvent détruire. Il y a des mondes qui sont déjà indestructibles, ils sont trop hauts, c'est complètement divin. Et le péché ne peut pas arriver là-bas. Il ne peut pas détruire à ce niveau-là. On peut arriver à un certain niveau cassé très 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 haut, j'ai parlé hier, on peut même couper les ailes des anges, d'accord? Mais quand tu arrives dans Dieu lui-même, là, on ne peut pas aller détruire la divinité, c'est pas possible. Pas possible. Là-bas, c'est complètement saint, kadosh, kadosh, kadosh. On va aller par notre prière dans le monde le plus haut qui peut exister. Lequel? Celui des lettres. Les lettres, comme je dis, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Dieu, comment il crée le monde? Avec des lettres. Chaque lettre, il y a 22 lettres, c'est une force. Une force divine. Et les permutations de ces lettres-là vont créer le monde. C'est pour ça qu'on dit que le monde est créé avec la langue sainte. C'est un cours entier là-dessus. Sur Internet, d'ailleurs, on peut voir. Comment la langue sainte, c'est une langue extraordinaire qui... Aucune langue n'est pareille. C'est-à-dire que les mots, très rapidement en deux mots, dans toutes les langues, tu as une inadéquation entre le signifiant et le signifié. Qu'est-ce que c'est que le signifiant? C'est le mot que tu utilises pour dire. L'objet, voilà. Il y a ici un livre. Le signifié, c'est le livre. Le signifiant, c'est le nom que j'utilise pour le signifier. Livre. Est-ce qu'il y a une adéquation, une relation intrinsèque entre le mot que j'utilise, livre, et ça? Aucune. C'est une convention. Tous les Français appellent ce genre de truc livre. Si maintenant on fait une convention entre nous, je vais appeler ça maintenant un cocorico. Je dis, passe moi un cocorico, ne fais chachaim. Tu m'amènes ça. Quelqu'un qui vient à l'extérieur dit, quoi il parle de quel poulet tu l'as amené? Non, tu n'as pas compris. C'est une convention entre nous. Toutes les langues, absolument toutes, n'ont aucune relation intrinsèque entre le signifiant et le signifié. Le signifiant est absolument une convention arbitraire basée sur rien. Je n'ai pas le temps de faire la démonstration maintenant, mais on le prouve dans un cours que j'ai fait. La Shana Kodesh, la langue sainte, la langue avec laquelle Dieu s'exprime, Dieu écrit la Torah, Dieu parle. Ce n'est pas une langue de convention, on n'a pas fait une convention avec quelqu'un d'autre. Dieu exprime l'objet dans ce qu'il est. Que le signifiant, le mot, exprime l'objet. Pourquoi? Parce qu'il est créé par les lettres de ce signifiant, de ce mot. Sefer, le mot Sefer, Samer, Pe, Resh. Ça veut dire que c'est une conjonction de trois forces divines. Samer, Pe, Resh, dans cet ordre avec ces points. Ça peut donner que ça. Et on fait la démonstration. Si je vais maintenant enseigner un chinois, le français, je vais enseigner tout le vocabulaire, toute la grammaire, toute la syntaxe, la conjugaison. Et j'espère qu'il parlera bien. Petit accent. Je vais enseigner maintenant l'hébreu à un chinois, langue sainte. Théoriquement, je enseigne les 22 lettres de l'alphabet avec leur sens. Comment est-ce qu'on fait des conjonctions de différents sens? Le sens aussi des points, il y a 10 sortes de points, les voyelles, ce qu'on appelle. Et n'ayant pas appris un seul mot de vocabulaire par cœur, il voit le mot, il sait de quoi il s'agit. Parce que le mot exprime l'objet. Le monde est créé par les lettres. Quand on fait le vidouille, on dit les lettres, on monte dans un monde le plus haut qu'il puisse y avoir. On arrive par notre prière là-haut. Et on fait descendre par notre tshuva un flux de lumière tellement grand de ce monde divin, des lettres, qui descend dans tous les mondes qu'on a détruits et répare tout. La lumière descend, l'obscurité s'en va et tout est réparé. Ça, c'est la tshuva. C'est ce qu'on fait à Yom Kippour. C'est ce qu'on fait durant Elul, sans cesse. On amène une lumière avec tshuva, rien à dire. Si tu dis simplement bêtement, tu n'as rien fait. Avec tshuva, quand tu es en tshuva, donc ton intention, elle monte. Grâce à la parole c'est l'échelle, mettons. Il faut qu'il y ait quelque chose qui monte dans l'échelle. C'est ton intention qui monte, qui va très très haut par ta tshuva, la pureté de ta tshuva, qui descend, qui répare tout. Donc les lettres saintes ont un pouvoir de création énorme. C'est comme ça que le monde a été créé. Continue le Kaf HaChaim, Nefesh HaChaim. C'est pour cela que l'essentiel de la vie et de la lumière et de l'existence de tous les mondes, tous, al-nachon, bien arrangés, parce qu'ils peuvent être complètement tordus, mais bien à leur place, ou rak n'est exclusivement que chez al-nachno que lorsque nous étudions la Torah comme il se doit. Car Kutcha Berichu, c'est le Saint béni soit-il en bon français, Voraita et la Torah, Veisraël et Israël font un. Ça, c'est marqué dans le Midrash il y a 2000 ans déjà. Dieu et sa Torah et Israël font un. Je vais expliquer cela aussi parce que j'ai déjà fait beaucoup de points d'introduction qui peuvent nous expliquer cette chose qui est marquée ici. Je bougeais le livre. N'est-ce pas? J'explique auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai bougé le livre? D'abord, j'ai voulu le bouger. Après, j'ai pensé le bouger. Après, j'ai bougé. Maintenant, qui l'a bougé? Je l'ai bougé ou ma main l'a bougé?
C'est l'extension de moi-même.
Extension de moi-même, ma main. Je veux dire, non, c'est pas moi. On a bien dit maintenant, si j'ai plus de main, moi, j'existe plus. J'existe, donc c'est pas moi, ma main, c'est pas moi. Mais tu as raison. C'est que ma main, elle part comme ça, te donne une gifle, rassé shalom. Il ne faut pas te dire, ah, excuse-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. Et tu sais, ça le reprend. Et monsieur Rav, vous rigolez avec moi, c'est une extension de vous-même. Exactement. La main, ce n'est pas moi. Moi, c'est moi. Moi, c'est ce bidule machin qui est là-haut, que je ne sais pas ce que c'est, qui s'exprime par une volonté, par une pensée. Et l'extension de moi-même, c'est ma main. Elle fait un avec moi. Dieu, il a une volonté. Elle s'exprime dans sa pensée, dans la Torah. mais il manque encore l'acte. Quand nous, âme Israël, faisons l'acte, nous sommes la main de Dieu. Nous sommes l'extension de Dieu. Nous faisons un avec lui. On ne peut pas dire, toi, t'es Dieu. Ben, je ne suis pas Dieu. Je suis l'extension de sa main. Je fais un avec lui. Un point tel que la Gemara dit qu'à la fin des temps, les tzadikim du peuple d'Israël seront appelés au nom de Dieu. Parce que quand tu vois la main de quelqu'un, tu dis, c'est lui. Passe-moi ça. Qu'est-ce que c'est, messieurs, ça? Est-ce que c'est Jérémie, oui ou non? Oui, c'est Jérémie. C'est sa main, en tout cas. C'est une partie de lui. On verra, amis, les tzadikim, on verra, hein? Je vois Dieu. Je vois Dieu. En tout cas, l'extension de lui. On fait un avec lui. Donc nous, lorsque nous agissons d'après la Torah, et que nous étudions la Torah de Dieu, nous sommes l'organe d'expression de Dieu qui fait que le monde existe. T'es celui qui amène l'énergie dans le monde. Alors, dans la Torah, il n'y a pas que l'incidence ilchatique, comment on met les tef, ou qu'est-ce qui permet ou interdit à Shabbat, ou comment on se marie avec une femme ou pas. Ça, c'est une partie, c'est la halakha, comment agir. Mais il y a toute la Torah, c'est toute la pensée de Dieu. Qui crée le monde? Quand toi, tu étudies la pensée de Dieu, que ce soit les lois des esclaves il y a 3000 ans, que ce soit comment le bœuf il encorne à sa quatrième vache, ou comment le Kohen il bouge, tu es en train d'étudier maintenant quoi? La volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Tu es en train d'amener un flux du monde des lettres dans le monde qui fait que le monde est. Tu es créateur du monde. Tu es un avec Dieu. D'où la valeur extraordinaire d'études de Torah. Que les gens peuvent rester assis des heures et des heures à des détails complètement crétins, insignifiants à prime abord. Parce qu'ils sont, quelque part, je suis branché à la source, je vis à 10 000 volts, je crée le monde. Je fais un avec Dieu, je suis Dieu. Quelle amplitude, quelle intensité de vie t'as quand tu es Dieu, quand tu es l'extension de la main de Dieu. T'as l'extension de la main de Dieu, je suis l'extension de la main de Dieu, tu vois. Les gens se mettent à trembler. C'est ça. Sans aucune exagération. Un point tel que le type en 6 mois, il change de tête. Il est extension de la main de Ahmadinejad. Il devient extension de la main de Dieu. Il change de tête. C'est Kolechal Misraël, car chacun d'Israël, Shorech Nishmato Eliona, la source de son âme haute, Medoubak est collé, Venechaz est saisi, Beotachat, d'une lettre de la Torah, Vayou Lachadim Mamash, et deviennent un Mamash absolument. Quand je lis la Torah, je deviens un avec ma racine d'âme, qui est une lettre de la Torah aussi, les lettres saintes, les forces de création du monde. Je fais un. Avec les forces divines de création. C'est pour ça qu'il est marqué dans Bereshit Rabba que la pensée de créer le peuple d'Israël a été première avant tout. Comme dit Rashi dans le Chumash, Bereshit pour Reshit. C'est qui Réchit? Il y a un verset. Réchit Tevoato. Le peuple d'Israël est appelé Réchit Tevoato, les prémices de sa récolte sur le peuple d'Israël. On est appelé Réchit. À un moment. C'est pas. Mais là-bas, et ça ne vient pas l'achlok objecté à Machamrou sur une autre chose qu'on dit Chazal, que la Torah était avant tout. Parce que Réchit aussi un autre verset. Réchit, Darko, Hachem Kalani, Réchit Darko. Dieu m'a acquis, Réchit au début de son chemin. Et c'est qui ce Réchit là? C'est la Torah. On décide. C'est qui était en premier? Torah ou Israël? Nous dit le Rav. Qui a Kol Echad Beshorshan. Que tout c'est la même chose à la base. Parce que quand tu es l'expression de la volonté de Dieu, tu es Israël, qui est l'expression de la volonté de Dieu, et tu es Torah, c'est la même chose. C'est la même chose. etc. Je ne vais pas vous lire tout le livre. Je recommande beaucoup la lecture de ce livre qui existe en français aussi. Un peu dur, mais primordial. C'est bon, mon cher ami ? T'as des questions ? Ah, bah alors, pose tes questions, t'as encore 3 minutes. Attends, d'abord Kevin, c'est l'auteur de la question.
Non, mais je ne comprends pas pourquoi les questions sont si imprécises que ça déjà.
Quelles questions imprécises ?
Non, bah, dans la Gemara et tout, quand tu vas à la Gemara, ils posent des questions, mais t'as envie de l'air fou.
Pourquoi t'as envie de l'air fou ?
Un petit exemple.
Parce que c'est pas clair.
Ils sortent gratuitement sans argent.
La Tsarkhinam Enkas.
Après, une question là-dessus, et tu
Mon cher ami, ta question elle est comme ça. Toi, tu veux comprendre maintenant la Torah de Dieu. Tu crois que c'est un tour de magie ? Tic-tac ! Je suis branché avec Dieu.
La question d'elle-même, elle veut dire quoi ? La question d'elle-même, posez-vous la question.
Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer bien ce que se passe. C'est vrai que la question qu'a posée Laurent David, c'est marqué aussi Réchid Goïm Amalek. Le premier des peuples, c'est Amalek. Alors, tu as Israël qui appelait Réchid. Il y a tout le monde qui appelait Réchid. Amalek ! Amalek, c'est le substrat du mal, c'est l'antithèse du bien. C'est le seul qui a. Il n'y a pas une seule étincelle de bien dans Amalek. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'il est marqué Aharito, à la fin, quand tout sera réparé, il n'y aura plus que le bien. Aharito, Adéoved. À la fin, il disparaît. Parce que tous qui ont des étincelles de bien, il y aura une réparation, ils sont réparés. Mais celui qui n'a plus rien, il n'a pas de bien en lui, à la fin. Il n'y a plus de place pour le mal. Tout le mal va être éradiqué et il disparaît. Réchit, à la base, tu as Amalek. Tu as le mal. Tu as le bien. Pourquoi ? Parce que Dieu veut qu'on ait libre arbitre. Dieu veut que par nous-mêmes, on accède à Dieu. Donc, tu as des résistances. Tu vas accéder à Dieu directement, tu as des résistances obligatoires. Plus tu vas arriver haut, plus la résistance, elle est énorme. Ça s'appelle, en étude de Torah, une incompréhension. La mystique, ça s'appelle les clipotes, c'est les forces. C'est comme un fruit, c'est comme une noix. Tu as le fruit dedans, tu as une écorce. Comme ça, le mot, on n'a même pas le droit de le dire, ce mot la nuit, c'est pas bien. Clipa, c'est écorce. C'est les forces du mal qui t'empêchent de comprendre. Parce qu'il y a une lumière. Tu crois qu'on va te donner la lumière comme ça ? Par l'effort que tu fais de compréhension, tac, tu casses l'écorce, tu as droit à la lumière. Alors la question, quand tu la lis, tu comprends rien. Et la Gemara est construite comme ça, la Torah est construite comme ça. Quand on te dit deux mots, c'est la question. Quand on te dit deux mots, c'est la réponse. Et tu passes une heure pour comprendre comment ça, c'est une réponse à ça. Quelle est la question ? Quelle est la réponse ? Pendant une heure. Et quand tu as compris, tu jubiles. Parce que tu accèdes et tu sens. Au bout d'un moment, tu vas sentir. Tu sens une lumière. Tu sens une lumière. Tu as des gens qui peuvent danser. Danser de joie. Alors, c'est pas... tu apprends l'anglais. À la voir, tu apprends la Torah de Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est fait pour se casser de la tête. Pourquoi ? Parce que par le fait, l'effort que tu fournis, c'est la seule façon de casser la force négative qui empêche d'accéder. Par l'effort qui est fourni. Donc il faut qu'il y ait un effort. Deuxièmement, quand tu fais un effort, ça va ensemble. Pourquoi il faut qu'il y ait un effort ? Parce qu'on veut casser. Alors comment on fait qu'il y ait un effort ? Il faut qu'il y ait un effort de concentration. Concentration, que tu quittes ce monde-là, que tu es dans ta question. La concentration, elle te branche avec ta source. De façon, automatique, sans effort, tu n'es pas branché à la source. Tu es branché à ce monde. Ce monde-ci, c'est l'antithèse de la source. Tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu. Je vois ce que je vois. Dieu n'est pas là. Moi, je vois ce qui est concret. On te dit, branche-toi à la source qui est spirituelle, abstraite. Tu dois faire un effort de quitter le concret pour entrer dans l'abstrait. Ça nécessite un effort. Donc la Gemara est faite. Qui est dans l'abstrait ? Au début, les gens n'arrivent pas à comprendre. On lui dit, un bœuf qui a encore une vache, il voit la corne, il voit la vache, il essaie de comprendre ce qui se passe. Au bout d'un moment, il peut commencer à faire des raisonnements abstraits. Ça, c'est le sujet, mais c'est le véhicule d'une pensée abstraite. C'est après les lamdan, ils font des rilouk, comme ça. Au bout d'un moment, tu apprends à parler dans l'abstrait. C'est ce qu'on apprend à la Shiva. Ça prend du temps. Une fois que tu arrives à parler dans l'abstrait, tu es de tout dans les raisonnements. Tu peux te brancher à la source abstraite. C'est abstrait. Et en grandissant, quand tu te branches à l'abstrait, tu te sanctifies. C'est quoi se sanctifier ? Quitter le monde de la matérialité qui est voué à rien, beau chose, ça disparaît la matérialité. Il ne reste plus que l'abstrait. Et on veut te brancher à l'abstrait pour que tu vives de façon éternelle, que tu sois branché à la source. Baruch Adonai, l'homme, l'homme, l'homme.